Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Liberté, Le Libraire et Présence, Information religieuse. Au programme, les drogues entre contrôle et guérison. Nos suggestions de lecture, romans, correspondances. Et le trublion en soutane. Bonne écoute.
Les drogues entre contrôle et guérison. Un texte de la rédaction paru à l'automne 2022 dans le numéro 336 de la revue Liberté. Cette revue ne s'écrit pas sans de bonnes doses de café. Vous la lisez peut-être en prenant l'apéro ou en fumant un petit joint. On imagine bien chaque génération de son comité de rédaction sous influence, dans d'interminables fous rires collectifs, avec des envies d'évasion. Nous voici dans notre état altéré habituel, en train de faire circuler entre nous des questions sur la drogue. En voulez-vous un peu? Qui aurait cru sincèrement que le cannabis et l'alcool seraient déclarés services essentiels en temps de crise? Et que nous connaîtrions ainsi ce monde où fumer du pot est légal, mais le partager ne l'est plus? Qu'est-ce que ça signifie d'ailleurs qu'une société d'État offre la livraison confidentielle de produits de cannabis partout au Québec en 5 jours ouvrables? On nous dit que depuis la décriminalisation, les malades osent enfin demander ce qui les soulage, que les gens prennent le temps d'apprivoiser les produits de façon responsable. Et la recherche en médecine sur le cannabis, les champignons et le LSD fait des progrès étonnants. Mais on meurt toujours de surdose dans la neige après avoir quitté l'urgence. Et les prisons ne se sont pas vidées. Pourquoi avons-nous l'impression que ce n'est ni la tolérance ni la compassion qui gagnent? Les drogues sont une affaire culturelle. Nos façons de les contrôler, de les consommer, de les raconter changent avec les époques. Au moment où nous terminons ce dossier, se termine aussi chez nous la première grève des pushers. Les employés de la SQDC, ces sympathiques commis thérapeutes en costume de jardinier et jardinière, sont responsables de nous accompagner dans nos convalescences, nos premières expériences ou nos dérapes, mais il est difficile pour elles de faire reconnaître leur expertise parce que, si vendre du cannabis est légal, les conseils des commis ne le sont pas vraiment. Nul ne peut faire la promotion de substances. Quand il est question de drogue, il y a souvent aussi cette hypocrisie. Le commerce va bien. On mise sur la réduction des méfaits, mais pour ce qui est de la compassion, de l'éducation et de l'autonomie, permettez-nous encore de douter. La détresse représente une excellente occasion d'affaires, légale ou pas, responsable ou pas. Qu'est-ce qui explique que la connaissance et la fabrication de drogue apportent à certaines personnes, certaines entreprises, autorités et fortunes, mais qu'elles signifient mépris et condamnation pour les autres, ces sorcières, ces gangsters et ces charlatans? Il y a une consommation de l'ordre de la distinction sociale et une consommation qui condamne et exclut, qui remet les pauvres à leur place. Le commerce des drogues a fait partie du système colonial dès le départ et il en perpétue les injustices, la violence. C'est une nouvelle forme d'appropriation des savoirs traditionnels et populaires, malgré ce que le mouvement pour la décriminalisation revendique de justice. Si certaines substances, qui ont le pouvoir d'altérer votre humeur et vos perceptions, vous valent honte et exclusion, on dirait que d'autres, sont en voie de devenir obligatoires. Et ce n'est plus pour impressionner vos amis que vous vous mettez à consommer, mais plutôt pour répondre aux exigences de votre assurance maladie. On s'intéresse aux soins, à la science, même à l'esthétique, mais seulement si cela contribue encore et toujours à la croissance, à la surconsommation. Il faut que le plaisir soit une performance, que nos désirs soient des dépendances. Il faut cette soif sans limite. Nous fracassons des records de prescriptions d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Autrement, comment pourrions-nous soigner ces innombrables troubles de l'adaptation? Toutes droguées, ce n'est pas exactement la fête. Au contraire, on dirait une grande anesthésie générale. On consomme pour étouffer la douleur et trouver la force de continuer. Continuer au-delà de nos capacités. Continuer malgré soi, malgré le sentiment qu'il faudrait arrêter. Avaler la pilule. Devenir tous enfin fonctionnels et tolérants, tolérantes à l'horreur. Mais il n'y a pas que cela. Les plantes nous font de l'effet. Non contentes de nous nourrir et de nous permettre de respirer, les perverses offrent aussi des tas de petits suppléments à la vie. Cette euphorie, cette énergie, ces perceptions extraordinaires, elles nous connectent avec le monde, nous font entrevoir les mystères. Elles peuvent nous soigner et nous rendre malades. Elles nous parlent. C'est naturel, c'est incroyable. Les humains explorent le pouvoir des plantes depuis toujours. Ils ont fait de l'ivresse un art, du poison une science, et ces savoirs se sont transmis malgré tous les interdits. Quand on nous parle de drogue aujourd'hui, c'est encore dans un contexte sécuritaire, avec un langage juridique, médical et marchand. Comme si, même drogués, nous voulions rester lisses et droits. Droite, en contrôle, comme si nous ne cherchions pas justement dans l'ivresse un espace pour l'hirsute et l'imprévisible. Et qui osera nous raconter la joie, l'harmonie qui naissent de nos rencontres avec les plantes? Qui nous dira qu'il est bon de rêver, de chercher l'élévation des âmes ou la communion? Pourquoi parler de drogue aujourd'hui? Peut-être parce que nous avons besoin d'apprendre une autre sorte d'appétit. C'était « Les drogues entre contrôle et guérison », un texte de la rédaction paru à l'automne 2022 dans le numéro 336 de la revue « Liberté ».
Suggestions de lecture, romans, correspondances. Des suggestions de lecture des libraires indépendants proposées le 3 juin 2022 dans le carnet Julie Autochtone, une initiative de la revue Les Libraires. Petite femme montagne. Thérèse-Marie Mayotte, traduction Annie Pronovo, marchand de feuilles. Voici une femme montagne qui se dresse dans les mots grands et simples. Elle écrit sur la maternité, la perte, l'absence, le désir, la souffrance, l'amour, la maladie mentale, la trahison et la survie. Elle le fait sans tressaillir, mais dire qu'elle est courageuse serait mal à comprendre. Ce que Mayotte a accompli dans ce livre exquis est d'une brillance à la fois crue et raffinée, un testament. Roxane Gay, autrice. Une suggestion de marchand de feuilles. La bienveillance des ours. Virginia Pessema-Péo-Bordelot et François Lévesque. Du Quartz. Authentique, émouvante, cette correspondance de Virginia Pessema-Péot-Bordelot et François Lévesque présente une autrice et un auteur à l'identité en marge, depuis leur enfance à Sainte-Terre en Abitibi-Témiscamingue. Dans un pas de deux à la fois simple et élégant, ils témoignent de leurs expériences de vie et de création, tantôt ardues, heureuses ou étonnantes. Une suggestion des éditions du Quartz. La Vallée des Fleurs, Nivia Corneliusen, traduction Inès Jorgensen, La Peuplade. Une jeune femme inuite vivant à Nuuk, capitale du Groenland, sort du nid familial pour entreprendre des études au Danemark. Une rupture se creuse en elle, et à son retour, au pied de la Vallée des Fleurs, la fêlure s'agrandit. Nivia Corneliusen signe un roman audacieux qui aborde avec une vérité crue les épidémies de suicide qui touchent son pays natal. Une suggestion de La Peuplade. C'était « Nos suggestions de lecture, roman correspondance », des suggestions de lecture des libraires indépendants proposées le 3 juin 2022 dans le carnet « Je lis autochtone », une initiative de la revue « Les libraires ».
Le Trublion en soutane, une chronique littéraire de Louis Cornelier, parue le 20 janvier 2023 dans Présence, information religieuse. J'ai toujours eu un faible pour l'abbé Pierre. J'aime bien ces chrétiens contestataires, comme le regretté Raymond Gravel, qui énervent les pontes de l'institution. Franc-tireur, il dérange. Ils tapent souvent sur les nerfs, mais sans eux, l'Église manquerait de sel. Jésus, faut-il encore le rappeler, était déjà, à l'origine, un sacré empêcheur de croire en paix. Il ne faut donc pas s'étonner que ceux et celles qui veulent vraiment suivre son exemple aient des profils d'agitateurs. L'abbé Pierre, qui a fait la pluie et le beau temps dans la seconde moitié du siècle précédent, est mort en 2007. Pourquoi en reparler aujourd'hui? Mais parce que l'oubli, déjà, menace, et que ce serait un péché d'abandonner, au limbe de l'histoire, une figure aussi inspirante. En 2020, 50% des jeunes Français disaient ne pas connaître l'abbé Pierre. Au Québec, on devine que l'ignorance à son égard est encore plus répandue. C'est donc au nom du devoir de mémoire que Sophie Doudet, maître de conférences en littérature française à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, publie une nouvelle biographie de l'homme simplement intitulée « L'abbé Pierre, folio 2022, 322 pages ». Les situations qui ont mené le prêtre à s'engager appartiennent à l'histoire, certes, mais l'injustice qu'il dénonçait, elle, n'a pas disparu. Par conséquent, l'exemple de l'abbé militant demeure on ne peut plus d'actualité. Que l'on n'attende pas de moi que je reste tranquille, disait-il devant la misère, la souffrance et le mépris. Fidèle à l'esprit de la collection, folio-biographie, le livre de Doudet, rigoureux sur le plan factuel et prudent sur le plan interprétatif, raconte sobrement cet admirable parcours. Le jeune homme riche. Henri Grouès, qui deviendra le résistant abbé Pierre en 1943, est pourtant né dans la ouate d'une famille riche et très catholique en 1912. Pendant cette enfance heureuse, ses parents lui offrent le modèle de chrétien vibrant très engagée dans les organisations charitables. De son père, Henri apprend qu'on ne peut être heureux en étant indifférent au bonheur ou à la souffrance des autres. Personnalité bipolaire, Henri traverse péniblement l'adolescence. Ses résultats scolaires sont médiocres et son désir de vivre chancelant. À 14 ans, il s'éprend d'un camarade de classe qui le repousse. La peine l'envahit. Son engagement dans le scoutisme lui redonne le goût de vivre. En 1927, lors d'un voyage scolaire en Italie, il reçoit une illumination à Assise, la ville de Saint-François. Son amour, désormais, ira à Jésus. Comme le Poverello, issu d'une famille riche comme lui, Henri veut se mettre en marche, pieds nus, au service des pauvres, d'où son entrée chez les Capucins en 1931, à l'âge de 19 ans. La vie de couvent, où les mesquineries le disputent à la prière, le déçoit profondément. Ordonné prêtre en 1938, il obtient de quitter le monastère l'année suivante pour devenir abbé dans le monde à Grenoble. Au même moment, la guerre commence. Le résistant et le prophète. Issu d'un milieu conservateur, Henri, jusque-là, a vécu dans l'indifférence à la vie politique. Mobilisé en septembre 1939, il tombe rapidement malade et n'approche jamais les zones de combat. Il redevient donc prêtre et défend, après la défaite de 1940, le gouvernement du maréchal Pétain. À l'été 1942, toutefois, alors qu'il est vicaire à Grenoble, des Juifs en fuite sonnent à sa porte pour lui demander de l'aide. Sa réaction est immédiate. Il les aidera, comme il en aidera de nombreux autres, en entrant dans la résistance jusqu'à la fin de la guerre. Il trouve des refuges aux Juifs pourchassés, fabrique de faux papiers, se fait passeur de réfugiés vers la Suisse et cadre de la résistance locale. En 1944, arrêté par la Gestapo, il parvient à s'évader. Henri est devenu l'abbé Pierre et a rencontré dans le maquis Mademoiselle Lucie Coutaz, une militante syndicaliste chrétienne qui sera sa précieuse assistante jusqu'à sa mort en 1982. En 1945, élu député comme candidat indépendant de Mouvement républicain populaire, un parti politique démocrate chrétien fidèle à De Gaulle, l'abbé Pierre, 33 ans, opposé au communisme, défend néanmoins des politiques marquées à gauche. La fonction politique, constate-t-il rapidement, lui convient mal. Quand il lance en 1948 le projet Emmaüs, une auberge destinée à accueillir des jeunes en quête de sens et d'un logement, il trouve enfin sa voie. Le lieu s'impose comme un refuge pour les sans-logis et pour les éclopés de la vie en tout genre. Il déborde rapidement, ce qui force l'abbé Pierre à se lancer dans des campagnes pour financer d'autres lieux semblables. Vous écoutez « Le Trublion en soutane », une chronique littéraire de Louis Cornelier, parue le 20 janvier 2023 dans « Présence, information religieuse ». En janvier 1954, la froideur de l'hiver parisien entraîne la mort de quelques itinérants. L'abbé Pierre n'en peut plus et lance à la radio son retentissant appel du 1er février. Dans des discours enflammés, il annonce que le châtiment de Dieu s'abattra sur ceux qui ont abandonné leur prochain dans le froid. Les dons, notamment ceux des comédiens Michel Simon et Charlie Chaplin, afflue. Emmaüs grandit et l'abbé Pierre s'enhardit. Il multiplie les coups d'éclat. Campements improvisés, squats et envolées prophétiques contre les nantis. Aux yeux de Dieu, lance-t-il à Montréal, et non à Mont-Royal comme l'écrit la biographe, en 1955, le blasphème, ce n'est pas la colère des pauvres. C'est l'indifférence de nos cœurs prétendus chrétiens devant la profanation de l'image de Dieu qui s'accomplit dans un milliard d'êtres humains à travers la terre. Certains commencent à trouver sa rhétorique révolutionnaire moins charmante. En 1957-1958, épuisé, l'abbé Pierre succombe à la tentation charnelle et sombre dans la dépression. Ami des pauvres, ennemi de la pauvreté. Contrairement à Mère Teresa, écrit Sophie Doudet, l'abbé Pierre se refuse absolument à considérer la pauvreté comme une chance ou un moyen de rédemption. Elle leur révolte et il ne saurait conseiller aux miséreux de se faire une raison ou de se réjouir d'être proche du Christ par leur dénuement. À partir de 1958, l'abbé parcourt le monde afin de plaider contre la misère et pour la paix. On ne trouve pas de sens à la vie dans la consommation ou dans le pouvoir, mais dans l'aide à ceux qui ont faim et qui souffrent. La faim dans le monde, clame-t-il, n'est pas un phénomène naturel, mais un problème économique et politique. Avec son ami, Dom Helder Camara, l'évêque brésilien aussi engagé que lui, l'abbé Pierre dénonce la richesse excessive de certains, s'en prend au capitalisme sauvage destructeur de l'environnement et rejette les appels à la patience lancés aux pauvres. Au fil des années suivantes, il bousculera le discours de l'Église en appuyant la contraception, le condom, l'avortement, l'accueil des homosexuels, ainsi que l'ordination des femmes et des hommes mariés. Chaque fois, les chefs de l'Église avalent ces sorties de travers, mais se retiennent de vilipender l'abbé vedette. Au Québec, notre Raymond Gravel avait de qui tenir. Des controverses. En 1995, l'abbé, à 83 ans, a été opéré pour des problèmes de prostate et souffre de la maladie de Parkinson. Toutefois, sa parole faisant encore autorité, on continue de le solliciter de tous côtés. Sa prise de position en faveur d'une intervention militaire contre les forces serbes en Bosnie-Herzégovine surprend ses alliés pacifistes. « Dieu sait si j'ai été pacifiste, » déclare-t-il. « Mais là, je suis favorable à la guerre et même à la levée de l'embargo qui est une honte. » Pour lui, il en va du devoir d'ingérence. Il faut sauver les Bosniaques. La position ne fait pas l'unanimité, certes, mais elle se défend. L'année suivante, l'abbé tombe dans un triste piège. Roger Garaudy, un ancien résistant communiste converti à l'islam et à la cause palestinienne, publie un essai contre Israël qui va jusqu'à nier l'ampleur du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. L'abbé Pierre a fraternisé avec Garaudy dans les années 1940, à l'époque où les deux hommes étaient députés. Quand Garaudy commence à être attaqué pour son essai sulfureux, l'abbé Pierre, au nom d'une ancienne amitié, le défend. Pour lui, le comportement d'Israël envers les Palestiniens est une juste cause. L'abbé, toutefois, a-t-il vraiment lu le livre? Faut-il vraiment croire qu'il serait, lui, l'ancien résistant ami des Juifs, devenu négationniste? Doudet ne le croit pas et attribue sa prise de position à sa naïveté et à sa fatigue. Il reconnaîtra d'ailleurs publiquement son erreur et retirera son appui à Garaudy. Il n'aura pas été le premier ni le dernier, à gauche, à accabler injustement les Juifs au nom de la cause palestinienne. Un homme libre. L'abbé Pierre meurt le 22 janvier 2007, à 94 ans. Dans sa jeunesse, Il voulait devenir un saint ou un héros. Il fut, d'une certaine manière, les deux. Du héros, conclut sa biographe, Henri avait le courage, la passion du combat, le mépris de la peur et peut-être l'inconscience. Du saint, il avait l'abnégation, la vie ascétique, la disponibilité incroyable, le don de soi et la foi. Opposé à une interprétation sombre du dogme du péché originel, l'abbé Pierre ne concevait pas l'humain comme un pénitent perpétuel, mais comme un être libre de faire le bien ou le mal. Quelle drôle d'idée d'arriver chez Dieu en se frappant la poitrine. « Je suis le dernier des derniers. Arrivons plutôt en disant « merci », écrivait-il en 1994 dans « Testament », Bayard 2005. Dieu, j'en suis sûr, l'a accueilli avec le même mot. C'était « Le Trublion en soutane », une chronique littéraire de Louis Cornelier, parue le 20 janvier 2023 dans « Présence, information religieuse ».
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage, André Lebeau et Lynn Lamarche à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.